avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. 7 milliards de voisins et plus de 18 millions d'élèves en Turquie, où l'école fait l'objet d'une véritable reprise en main politique depuis le coup d'État manqué de juillet dernier. Quelles conséquences pour les enseignants qui ont perdu leur emploi, pour les élèves? Comment s'organisent les familles pour préserver la qualité de l'éducation et la liberté de penser? Quel est le projet de société aussi derrière cette reprise en main qui touche les jeunes générations? Le président Erdogan parviendra-t-il à former ce qu'il appelle une génération pieuse? Eh bien, nous allons en discuter avec nos invités. Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, politologue, ancien turc, ancien professeur à l'université Galatasaray. Et vous avez publié La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Vous êtes également chroniqueur pour le journal turc Cumhuriyet, qui a à l'heure actuelle 11 collègues en détention, c'est bien
ça?
Esegül Sert est également avec nous. Bonjour, bonjour Esegül.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste turc, vous écrivez sur la Turquie, entre autres pour le New York Times et Newsweek. Et puis également au téléphone avec nous, Delphine Minoui, correspondante en Turquie pour le Figaro. Bonjour Delphine Minoui.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct avec nous d'Istanbul. Merci à tous les trois d'être avec nous. Et donc nous allons essayer de comprendre les heures difficiles que vit l'école au sens large du terme en Turquie aujourd'hui.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Ahmet İnsel, Esegül Sert et Delphine Minoui, est-ce qu'on sait aujourd'hui, alors on a beaucoup dit après le putsch manqué de juillet dernier qu'il y avait eu de très nombreux limogeages de fonctionnaires qui ont d'ailleurs ces limogeages beaucoup touché les magistrats, pour les enseignants, près de 6 mois après le putsch, est-ce que l'on sait combien d'enseignants ne sont plus autorisés à enseigner dans les écoles publiques turques? Est-ce qu'on sait à peu près combien ont réellement été limogés ou suspendus selon vous?
Il y a eu un chiffre officiel du ministère de l'Éducation nationale publié vers mi-octobre, après le troisième ou quatrième décret-loi, parce que vous savez, c'est par décret-loi qu'on ne peut pas contester en plus, porter devant les tribunaux, ni devant le Conseil constitutionnel pour le moment, et ils avaient annoncé 28 000. Enseignants ou fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, dont la majorité étaient des enseignants, ont été limogés. Plus des personnes étaient suspendues et certaines ont été limogées par la suite et d'autres ont été réintégrées. Et à ce nombre de 28 000, probablement, il faut ajouter à peu près 3-4 000 enseignants du supérieur qui ont été limogés successivement. Donc, sur environ 90 000 fonctionnaires limogés, le gros des troupes, si vous voulez, le tiers concerne l'enseignement, l'enseignement primaire, secondaire et l'enseignement
l'université.
Supérieur. Et l'université.
Oui. Et normalement, dans l'année scolaire, moi, je regardais un peu au chiffre, comme dit Ahmet, pour l'année scolaire 2016-2017, ça disait 30 000 enseignants sans base juridique ont été licenciés, 25 000 enseignants ont été suspendus, et ensuite 16 000 à peu près, après des mois de chômage, de dépression, ils ont regagné leur poste. Il faut dire aussi qu'en 2017, on vient de commencer, ça fait à peine 3 semaines, il y a eu à peu près 650-700 chercheurs et professeurs d'université qui ont été aussi licenciés. Ouais. Donc ça continue.
Donc on peut vraiment parler d'une reprise en main politique de l'école turque.
Épuration même, je dirais.
Épuration, c'est le mot que vous employez. Delphine Minoui, comment vivent ces enseignants qui ont subi des limogeages, des suspensions et qui, d'ailleurs, ont perdu leur emploi, mais ont vécu aussi d'autres types de brimades, notamment la confiscation des diplômes, les passeports annulés, Delphine Minoui, à Istanbul.
Oui, c'est une situation très difficile. Alors, d'abord, il faut faire la distinction entre ceux qui sont suspendus et qui continuent à toucher une petite partie de leur salaire et ceux qui sont licenciés et qui sont complètement en complète difficulté économique. Ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de sécurité sociale. Certains se voient même frappés d'une interdiction de sortie du territoire, puisque pour certains, leur passeport a été annulé. Et puis, il y a tout le traumatisme, bien évidemment, psychologique qui va de pair. C'est ce que me confiait récemment une enseignante avec qui je discutais. Ses anciens collègues ne répondent plus à ses appels. Certains amis n'osent plus la fréquenter. Il y a vraiment une culture de la peur et de la paranoïa qui prend le dessus. Et dans ces conditions, il lui est très difficile de trouver un autre emploi. Elle est stigmatisée et elle se trouve complètement marginalisée dans sa propre société.
Et aussi, quand vous regardez à des listes, je regardais récemment à une liste d'une association allemande, qui est de deux associations allemandes renommées, où ils avaient fait une liste pour cette 2016-2017 pour des enseignants, des professeurs d'universitaires qui demandaient à être embauchés à l'étranger. Et sur la liste, la plupart des noms étaient des professeurs turcs. Et ensuite, ça venait des enseignants syriens et irakiens. Donc la situation, comme dit Delphine, est très grave. Et aussi, je pense que Ahmed Insel va en parler sûrement, il y a aussi des académiciens qui, au lieu de se trouver dans une classe à donner des cours, se retrouvent dans le palais de justice à essayer de se défendre pour une pétition de la paix qu'ils ont signée au début de l'année 2016.
Oui, et donc dans une solitude sociale souvent assez difficile à vivre, sans parler du problème économique quand on se retrouve sans salaire.
Mais surtout, c'est ça, je connais par exemple pas mal de quelques enseignants du secondaire, des professeurs de lycée, qui aujourd'hui, comme Delphine Minot a précisé, ils n'ont aucun revenu et ils n'ont aucun droit. Et en plus, comme leur licenciement est décrété une sorte de mise au ban au sein de la société, ils ne peuvent pas trouver non plus des emplois dans des entreprises privées. Oui. Et ils font, j'en connais au moins deux ou trois, ils font les marchés. Ils font maintenant le vendeur ambulant dans les marchés, des professeurs de physique ou des professeurs de j'en connais un qui est professeur de physique et l'autre de professeur de mathématiques. Et ils sont vendeurs ambulants parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de faire ça. Ils ont des enfants, il y a l'école à payer, il y a les loyers à payer, etc. Heureusement, il y a un peu de solidarité familiale qui continue, néanmoins, même si la solidarité autour de ces personnes se rompt. Le syndicat, en revanche, parce que tous ne sont pas syndiqués, parmi ces licenciés, il y en a qui sont dans des syndicats de gauche, et le syndicat a créé un fonds de solidarité, les syndiqués versent de l'argent dans ce fonds de solidarité. Il y a un tout petit peu de soutien financier, mais évidemment, le nombre est très très élevé.
Alors, je vous lis une question d'un auditeur qui est à N'Djamena au chat, parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui posent de bonnes questions, qui comprennent bien tout de même le drame de ces enseignants. Peloun nous pose la question suivante, que je pose à Delphine Minoui, qui est en direct à Istanbul. En quoi est-ce que les fonctionnaires comme les enseignants sont responsables d'un coup d'État manqué? Le gouvernement souvent base ses discours théoriques sur du néant, nous dit Peloun. Mais en gros, en fait, quels sont les enseignants visés par le pouvoir aujourd'hui, finalement, pour tous ces limogeages et suspensions et brimades, Delphine?
Oui, bonne question, parce que là, on est vraiment aujourd'hui, malheureusement, dans le règne de l'arbitraire. Au tout début de la purge, juste après le coup d'État raté du 15 juillet dernier, c'était principalement les enseignants présumés proches de Fethullah Gulen, donc l'instigateur présumé du coup d'État, qui était visé. Et on l'a vu très très vite, finalement, cette purge s'est transformée en véritable chasse aux sorcières contre toutes les voix critiques à l'égard du pouvoir du président Erdogan. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas que les présumés gulenistes qui sont visés, avec d'ailleurs souvent des preuves très très minimes, mais ce sont aussi des personnes qui sont accusées d'avoir soutenu la rébellion kurde du PKK, qui est en conflit actuel dans le sud-est du pays avec l'armée. Il y a des noms qui sont réapparus de professeurs d'université qui, l'année dernière, avaient signé une pétition d'appel à la paix et qui avaient été étiquetés comme
de 2000 professeurs
soutien
à peu
au
près.
Terrorisme dans le sud-est. Voilà. Donc ça touche, je dirais, un peu tout le monde, un large éventail. Qui dépasse en effet de loin.
Et également des militants de gauche, des syndicalistes, des kémalistes.
Toute forme un petit peu d'opposition au gouvernement, en un sens. Je pense que nos dirigeants aujourd'hui en Turquie ont vraiment un complexe d'infériorité face aux intellectuels, face aux laïcs, face aux gens qui sont éduqués. Et cette purge, ça a commencé avant le 15 juillet, il faut le dire aussi, mais cette purge est absolument utilisée pour pour aussi, déjà quand on voit les débats et les rixes qui se passent là depuis 2 semaines dans notre Parlement, on voit à quel point il y a vraiment une complexe d'infériorité.
Pourquoi maintenant cette purge à l'égard des enseignants de manière tout de même massive, alors que le pouvoir islamo-conservateur, l'AKP, est au pouvoir depuis 2002, que c'est un pouvoir qui a misé sur l'éducation aussi. Pourquoi maintenant, finalement ?
D'abord, actuellement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a eu des purges précédemment, mais ces purges, évidemment, pouvaient être contestées devant les tribunaux administratifs. Et donc, du coup, le pouvoir n'arrivait pas vraiment à purger. Il y avait une contestation. Le coup d'État et l'état d'urgence a permis au pouvoir de faire totalement par l'arbitraire. Décision administrative incontestable. Ça, c'est une première chose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Tayyip Erdogan a annoncé, après le coup d'État, que ce coup d'État était un don de Dieu pour lui. C'est le don de Dieu, c'est la capacité à faire, justement, cet arbitraire. Deuxièmement, il y a une bataille dans le pouvoir, au sein du pouvoir, une sorte de lutte fratricide au sein du pouvoir, entre cette communauté gulen que le pouvoir a été en étroite collaboration auparavant, notamment pour contrôler la justice, la police et l'enseignement, et supérieur ou secondaire, et que un partage de pouvoir qui s'est mal passé, si vous voulez, par la suite, dont le coup d'État est une émanation, et maintenant le pouvoir essaie de faire un nettoyage massif dans l'enseignement des gens qui sont considérés comme gulenistes, mais pas à la même occasion. Le nettoyage va beaucoup plus loin.
Juste quelques précisions sur cette communauté guléniste, là, dans l'éducation, dans les sphères de l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ce sont des gens qui sont sympathisants d'une communauté, d'une confrérie. Mm-hmm. Cette confrérie qui s'est constituée depuis les années 70, c'est une confrérie qui a beaucoup investi dans une logique élitiste de droite à former des gens pour placer dans des place clé de l'État, une sorte d'opus Dei, si vous voulez, et que dans l'enseignement, ils ont aussi investi énormément dans l'enseignement secondaire privé et dans les cours de préparation au concours.
Oui, les fameuses écoles de bachotage.
Des écoles de bachotage
qui avaient très bons résultats.
De très bons résultats, et ça leur permettait en même temps de sélectionner des bons éléments pour pouvoir après les suivre dans l'enseignement supérieur et les classer, les placer. Et parfois, d'ailleurs, malheureusement, on découvre qu'ils donnaient les sujets des concours administratifs à leurs proches pour pouvoir les placer beaucoup mieux dans la police, la justice, l'armée, l'éducation.
Mais aussi pour répondre un petit peu à votre question sur l'AKP, pourquoi l'AKP qui avait fait autant ? C'est vrai, il faut être juste dans le sens où quand l'AKP est venu, donc le Parti de Justice et de Développement
du président Erdogan,
et sont venus au pouvoir en 2002, c'est vrai qu'ils ont investi dans l'éducation. C'est vrai que les problèmes dans l'éducation turque nationale n'ont pas commencé avec AKP. Non. Tout ça, c'est vrai. Mais il faut aussi... Le nombre d'universités ont doublé sous l'AKP. Je crois qu'il y en avait à peu près 76 en 2002. On en a le double aujourd'hui. C'est vrai qu'à peu près, il y avait 9% de jeunes inscrits à l'université en 2000. En 2015, à peu près, c'était à 21%. Tout ça, c'est vrai. Mais il y avait un objectif. C'était un objectif d'adhésion à l'Union européenne. Et pour cet objectif, l'un des éléments est de faire monter la valeur de l'éducation.
Et un objectif de développement économique
tout à fait.
Aussi.
Mais le tableau aujourd'hui est absolument différent. Le tableau aujourd'hui reflète une éducation qui vise vraiment l'islamisation.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Un objectif d'islamisation. Alors justement, on parlait de ce verrou qui avait sauté et qui avait permis une reprise en main extrêmement musclée de l'école juste après le coup d'État manqué. Delphine Minoui, vous qui êtes en direct à Istanbul. Je voudrais qu'on revienne juste rapidement sur cette rentrée scolaire qui s'est faite en septembre dernier sur fond de propagande, c'est-à-dire quelques semaines après le coup d'État manqué.
Oui, ça a été vraiment une propagande à outrance. Puisque en arrivant dans leurs écoles, les enfants étaient surpris de voir dans les halls d'entrée, par exemple, toutes les photos des martyrs. On leur a distribué des petits fascicules qui précisaient que tout ceci était en mémoire des martyrs et pour le triomphe de la démocratie. Et là, je cite un des fascicules. Donc, tout de suite, de la part de certains parents, il y a eu cette crainte de voir le pouvoir réécrire l'histoire et donner cette idée que la démocratie commence à partir d'aujourd'hui, et c'est la démocratie version Erdogan. Et en plus de ça, il y a eu deux vidéos qui ont circulé, qui ont été montrées dans certaines écoles aussi, avec beaucoup de violence, et c'est ça qui a aussi beaucoup choqué les parents, parce que souvent c'était des tout-petits de 5 ans qui regardaient ces images, où on voyait cette violence de la nuit du coup d'État, les corps qui jonchaient les rues.
Ça s'était montré à des enfants dès les premières années de l'école primaire.
Oui, oui, ça a été montré également, en effet, à partir d'un âge très, très, enfin, un petit âge, je dirais. Et ce qui avait beaucoup frappé aussi, c'est que sur une des vidéos, à un moment donné, il y avait un grand drapeau turc, rouge, qui couvrait tout l'écran et qui donnait cette idée d'une grande mer de sang. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu, émotionnellement, psychologiquement, il y a eu des chocs qui ont été vécus par certains enfants parce qu'ils n'avaient pas été préparés à tout ça.
Mais en plus, il y a eu des histoires qu'on a entendues des parents ou des enseignants. En tout cas, moi, je viens d'arriver d'Istanbul vendredi, où on m'a confié les enfants en train de jouer dans la cour de récré ou bien en faisant du théâtre. Il y en avait un groupe qui jouait les martyrs, oui, et l'autre groupe qui jouait des traîtres à la nation. C'est très grave. Il y a quelques jours, juste avant les vacances de mi-année à Istanbul, vous parlez des 18 millions d'élèves qui ont reçu leur carnet. Il y avait une interview, je pense, ça fait même pas une semaine, diffusée sur CNN Turc, où une journaliste demande à un enfant, à une petite fille de 9 ou 10 ans à peu près, « Que veux-tu devenir quand tu seras grande ?» Et elle, en toute confiance, elle a dit « J'aimerais devenir président. » « Et que feras-tu quand tu deviendras président ?» Et j'ai écrit exactement ces mots. La petite de 9 à 10 ans, elle a dit en toute confiance « Je vais changer la constitution. Nous vivons beaucoup de problèmes à cause des putschistes, donc je vais ramener la peine de mort. Il paraît que les lois fondamentaux de la constitution ne peuvent pas être renversées, mais moi, je vais le faire. » Ça vous rappelle quelqu'un?
À 9 ans ou 10 ans?
À 9 ans, 10 ans. Malheureusement, il y a un bombardement idéologique dans l'école, évidemment par les médias, parce que le média, en grande partie, surtout la télévision, est très, très contrôlée. Donc, du coup, je crois qu'il y a une continuité absolue entre ce que les enfants voient dans la télévision, ce qu'ils voient dans l'école. Dans la grande majorité, il y a quand même des écoles qui essayent de préserver un peu leurs élèves, mais il y a aussi, évidemment, des directeurs d'école et des professeurs qui sont acquis à la cause de la KP et qui font des excès de zèle pour se montrer. Nous sommes aussi dans une situation post-coup d'État où les gens veulent aussi, certains en tout cas, veulent se montrer plus royalistes que le roi pour pouvoir avancer. Et ça, c'est, je pense, on le voit dans les universités aussi, puisqu'il y a des universités où personne quasiment n'ont été licenciées, et dans d'autres, des soixantaines, des centaines de personnes licenciées parce que c'est le président d'université qui donne les listes.
Alors, bien sûr, il faut aussi que l'on parle de la reprise en main. Là, on parlait d'une reprise en main politique, mais il y a une reprise en main religieuse qui avait démarré depuis plusieurs années, où il y a des écoles laïques qui sont transformées en écoles religieuses, où le voile, autrefois interdit à l'université, est désormais autorisé depuis, 3 ans à peu près, hein,
depuis 6 ans,
maintenant. Plus, voilà, où on voit des mosquées qui sont construites aussi sur les campus d'université, ce qui est tout à fait stupéfiant, hein, pour un pays comme la Turquie. Vous restez avec nous, nous allons en reparler juste après le flash, on rend l'antenne là pour le flash. Ahmet İnsel, Eşe Gülsert et Delphine Minoui, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI. Et bien sûr, si vous souhaitez poser des questions, on posera la question de Brice qui est à Yaoundé aussi sur le limogeage des enseignants. Vous pouvez tout à fait poster vos questions sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. A tout de suite après le flash.
Suivez la Coupe d'Afrique des Nations.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. La reprise en main politique de l'école en Turquie, à quoi ressemble-t-elle? On parlait de ces limogeages en série d'enseignants, limogés ou suspendus. Nous en discutons avec vous, Ahmet İnsel, économiste politologue turc. Vous avez publié La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Une dérive qui se fait sentir d'autant plus clairement sur les nouvelles générations et de façon durable. Et chez Gülsert, vous êtes journaliste turc, vous écrivez sur la Turquie, entre autres pour le New York Times et Newsweek. Et Delphine Minoui est au téléphone avec nous, correspondante en Turquie pour le Figaro. Alors nous parlions donc de cette reprise en main extrêmement musclée juste après le coup d'État manqué de juillet dernier. Mais vous nous le disiez aussi, cette reprise en main de l'école en Turquie au sens large du terme, avec un grand E qui va de l'école primaire jusqu'à l'université, ne date pas du coup d'État manqué de cet été, notamment concernant la reprise en main religieuse, puisque Erdogan disait dès 2012...
Il voulait une génération pieuse. Une génération quand il était pieuse. Premier ministre à l'époque, tout à fait.
Voilà. Et Erdogan qui a été formé lui-même.
Dans les imam hatip, qui sont les écoles religieuses, et ce sont des écoles qui ont été au début formées afin de, je vais me répéter, pour former des imams pour les mosquées.
C'est ça. Mais voilà. Comment ça se passe, ces écoles? Est-ce que ça pourrait être comparé à ce qu'on appellerait, nous, en français, des écoles coraniques ou pas?
Non, c'est pas différent des écoles coraniques, tout à fait.
Oui.
Ah, il s'agit d'écoles publiques, d'abord. Deuxièmement, il s'agit d'écoles dites professionnelles, des lycées professionnels, des collèges et lycées professionnels, parce que comme en Turquie, la fonction d'imam et de prédicateur est une fonction publique, il y a 100 000 imams et prédicateurs payés par l'État qui sont fonctionnaires. Donc du coup, il s'agit initialement, comme un lycée technique, de former de ces imams et prédicateurs avec à la fois une formation générale, plus des formations spécifiques pour devenir imam, c'est-à-dire lecture de Coran et une certaine connaissance sur la vie du prophète, etc. Alors, malheureusement, en Turquie, depuis 1925, il n'est pas possible d'avoir d'école libre. Donc, pendant les années de la laïcité militante antérieure, les familles conservatrices qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants dans des écoles publiques ou privées, mais qui appliquent un enseignement laïque un peu militant, ont préféré envoyer leurs enfants, non pas pour des raisons professionnelles, mais exactement comme en France, les catholiques envoyaient leurs enfants dans les écoles libres ou dans des écoles sous contrat pour qu'ils puissent avoir une éducation religieuse. Et donc, du coup, il y a un détournement, si vous voulez, de cette fonction initiale et de plus en plus, du coup, d'écoles ordinaires, de collèges et de lycées ordinaires, se sont transformés en écoles d'imams et prédicateurs mixtes. C'est-à-dire que normalement, il n'y a quasiment pas d'emploi féminine, par exemple, mais beaucoup de familles envoient leurs enfants là-bas parce que, soi-disant, les enfants ont une conception morale, une connaissance de religion, etc. Et Tayyip Erdogan vient, a été un des premiers à suivre ces écoles dans les années 70. Il a été dans le lycée d'imam et prédicateur. Et il faut reconnaître une deuxième chose, c'est qu'en Turquie, il y a depuis des très longs temps, c'est-à-dire presque depuis un siècle, nous vivons une sorte de Kulturkampf, c'est-à-dire une sorte de guerre culturelle dont l'école, l'enseignement, le contrôle de l'enseignement est l'enjeu majeur. Du côté des laïcs, ou du côté des religieux, le contrôle de l'enseignement est un enjeu majeur. Et les deux camps, il faut reconnaître là-dessus, les laïcs ont aussi responsabilité, ils ont trop idéologisé au départ l'enseignement, ce qui fait que maintenant, les religieux ou les conservateurs avancent sur le terrain de l'idéologisation qui était déjà préparée pour, cette fois-ci, créer une future génération pieuse, conservatrice et soumise au pouvoir. Parce que je pense que ce qui est différent dans leur conception, c'est que dans cette conception de l'éducation, la soumission à l'autorité est le principe fondamental.
Et aussi, je prends le relais un petit peu dans le sens où c'est vrai que dans les écoles avant ce gouvernement étaient aussi l'histoire qui était enseignée dans ces écoles entre guillemets laïques était une histoire qui faisait l'éloge de la République et de la laïcité, mais qui avait sa façon de raconter l'histoire du pays, c'est-à-dire très ouvertement en mettant de côté les questions de fond comme la question arménienne et la question kurde. Pour revenir au imam hatip. Quand l'AKP est venu au pouvoir, il y avait à peu près 65 000 étudiants qui étaient dans les imamatip. Aujourd'hui, on parle de plus de 1 million d'étudiants qui sont dans les imamatip.
Ça, c'est le fils du président Erdogan lui-même hein, qui a donné ces chiffres.
Aussi, et Timsan, le syndicat de l'école, a annoncé ça aussi.
Un chiffre qu'on peut considérer comme fiable. Donc, c'est
beaucoup
une augmentation,
plus fiable que le...
Plus de 70% d'augmentation.
Mais tout à fait. Et aussi, je regardais au lycée, par exemple, de Timsan, des lycées seulement de Imam Hatip. Il y avait en 2012 537 lycées de Imam Hatip. En 2017, il y en a 1400. Donc son souhait d'élever une génération pieuse, il est en train de l'acquérir, non seulement avec les Imam Hatip, mais vous avez parlé des écoles coraniques. Il y a aussi des changements dans les écoles coraniques, c'est-à-dire qu'il fallait avant avoir au moins 12 ans pour pouvoir avoir des études dans une école coranique. Maintenant, cela a été aboli. Maintenant, même un enfant qui a l'âge de la maternelle peut être envoyé à une école coranique.
L'école coranique, c'est une école extrascolaire, hein, c'est un peu le catéchisme. Et il faut simplement préciser une chose, c'est que dans les années 90, il y avait une montée considérable d'inscriptions dans les écoles d'imams et prédicateurs. Malheureusement, ce sont les militaires, après le coup d'État de 1980, pour barrer la route à la gauche, aux socialistes, à la jeunesse montante socialiste, ont donné la priorité à une sorte de islamisation, turquisation de l'éducation. Et dans les années 90, il y avait une montée considérable et une sorte de post-coup d'État de 1998, les militaires ont changé subitement la structure de l'enseignement secondaire, primaire. Et au lieu d'avoir l'école primaire 5 ans, le collège 3 ans et le lycée 3 ans, ils ont dit, désormais, l'école primaire est d'une manière indivisible 8 années, afin d'empêcher les ouvertures des écoles.
On voit bien quand même, durant toute l'histoire de la Turquie, c'est la prise d'otage de l'école, en fait.
C'est exactement ça.
Mais c'est un terrain énorme qui est utilisé comme l'outil. Vous savez, si vous avez l'éducation, les médias, quel que soit le pays, non seulement la Turquie, vous avez quand même plus ou moins le pouvoir.
Alors, aujourd'hui, Delphine Minoui, en direct d'Istanbul, il y a des familles qui se retrouvent, qui ont mis leurs enfants dans des écoles, qui sont transformées en imam Hatip, qui n'étaient pas transformés au départ, qui étaient des écoles, on va dire, classiques. Est-ce que ces familles se retrouvent, en fait, n'ont pas le choix, sont obligées de laisser leurs enfants dans ces écoles, même si elles ne sont pas d'accord? Comment ça se passe pour les familles?
Ça dépend pour lesquelles. Celles qui en ont les moyens, et ça on s'en rend compte de plus en plus, décident de mettre leurs enfants dans le privé, parce que ces familles ont abandonné l'idée d'un enseignement qui fonctionne. Comme le disait très bien tout à l'heure Amadine Sel, c'est vraiment deux socles idéologiques qui s'opposent. C'est une guerre idéologique ouverte entre d'un côté le socle kémaliste d'Atatürk, qu'il faut rappeler aujourd'hui que dans toutes les écoles publiques aujourd'hui, dès que vous rentrez, école laïque, il y a toujours un portrait géant d'Atatürk, un buste, il y a un préposé qui va se charger très régulièrement d'apporter des fleurs et de se débarrasser des fleurs fanées pour entretenir, voilà, dans un très bon esprit le mythe d'Atatürk. Et en face, le socle plus islamisant, voire néo-ottoman, parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi une volonté de réviser les manuels scolaires, d'évoquer de plus en plus la grandeur de l'Empire ottoman comme une sorte d'opposition à la République kémaliste qui a été instaurée en 1923. Et du coup, ça, vous vous en rendez compte au quotidien. Il y a cette guerre permanente qui est livrée et qui fait l'objet d'exemples et d'anecdotes au jour le jour. Il y a encore quelques semaines, par exemple, le ministère de l'Éducation a évoqué l'idée de retirer des livres de biologie à l'école, tout ce qui concerne l'évolution de l'espèce humaine.
Mais alors justement, comment s'organisent les familles? Alors forcément, les familles peut-être éduquées et qui ne sont pas d'accord avec ces transformations, qu'il s'agisse de transformations vers une voie plus religieuse ou tout simplement des limogeages d'enseignants qui sont condamnés à être vendeurs ambulants sur les marchés, vous en parliez en début d'émission à Amadine Sel, et donc qui privent les enfants, les élèves de qualité dans l'éducation. Comment aujourd'hui s'organisent les familles pour résister? Est-ce qu'il y a une résistance ou pas d'ailleurs possible?
En tout cas, moi, j'ai parlé avant de venir, la semaine dernière, à un professeur de lycée privé à Istanbul qui disait qu'il remarquait de plus en plus que ses étudiants de première et de terminale, et les parents aussi soutenu leurs enfants, ont un désir de partir à l'étranger pour faire des études.
Mais il faut bien préciser que l'école privée n'est pas touchée par la reprise en main politique et par les purges en tant que telles.
Il y a des pressions considérables aussi dans les écoles.
Le programme est déjà national. Il n'y a pas de programme, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'école libre. Quand on dit école privée, les programmes sont identiques à ceux de l'école publique.
Ils sont reliés à l'éducation nationale.
L'école publique est de toute façon largement majoritaire.
Oui, largement majoritaire. L'école publique est largement majoritaire. Et dans l'école publique, il y a, tout à l'heure, vous avez posé la question à Delphine Minou, que font les enfants des familles dont le lycée ou le collège se transforme subitement en imam type. Si c'est un bon élève, s'il a des bons résultats, il arrive quand même à être recruté dans une école, dans le lycée public de qualité, parce que les entrées sont aussi très sélectives chez nous. Donc, c'est surtout dans les imams types se retrouvent les familles qui n'en ont pas les moyens ou les enfants qui n'ont pas des bons résultats. Donc, les imams types, effectivement, c'est un peu les écoles de troisième classe au jour d'aujourd'hui. Et le gouvernement veut, par tous les moyens...
Et qui sont de plus en plus nombreuses.
Ils sont de plus en plus nombreuses. Et le gouvernement veut, par tous les moyens, et le fils du président de la République est principalement chargé pour ça avec sa fondation, et il utilise énormément les moyens publics pour sa fondation, pour rehausser le niveau des imams types. Parce qu'il y a un vrai problème de niveau des imams types. Objectivement. Et d'autre part, les familles, évidemment, essayent de préserver leurs enfants dans les limites du possible, des cours obligatoires sélectifs, parfois des cours au choix de la vie de Mohamed, le Coran, etc. Parce que maintenant, dans l'école publique, il y a non seulement depuis 1982, un cours obligatoire de religion sous l'appellation de cours de morale, depuis 1982, qui commence en CM1 et qui va jusqu'en terminale, tous les ans. C'est un cours obligatoire. Et en plus de ce cours obligatoire qui a été mis en place en 82 par les militaires, là, la KP n'a rien fait là-dessus, maintenant, depuis 4 ans, il y a des cours optionnels de plus en plus. La vie de Mohamed, la lecture du Coran, 4-5 cours optionnels. Mais dans certains lycées, dans certains collèges, les cours optionnels deviennent obligatoires parce qu'il n'y a pas d'autres cours optionnels. Alors là, les familles sont très coincées.
Et surtout, les familles sont très coincées si vous venez d'une famille à Lévis, par exemple, ou bien si vous venez d'une famille...
Des minorités qui ne font pas partie de... Qui ne sont pas de religion musulmane, considérée comme...
Ou sunnite. C'est pas simplement musulman. C'est aussi une version... C'est comme catholique et protestant, si vous voulez. Imaginez que les protestants soient obligés de suivre le catéchisme catholique.
Et aussi, Delphine Minoui a très bien parlé des manuels qui sont en train qui vont être réécrit aussi. Il y a en ce moment une plateforme électronique pour l'éducation que le ministère de l'Éducation a sortie, qui à peu près jusqu'au 10 février, les parents, les élèves peuvent envoyer leurs idées de comment l'éducation devrait être, parce que c'est un pays très très démocratique, voyez-vous. Et ensuite, ils vont réévaluer ces observations qui vont venir de ces gens-là, et ils vont réécrire en un sens les manuels, le curriculum et les manuels scolaires. Là, ce qu'ils veulent, cela vise, si ça passe, moins de cours autour du sujet de la laïcité, la continuation d'un cours optionnel que Ahmed Issaed parlait d'enseignement de la vie du prophète Mahomet qui était déjà effectif, l'annulation des cours sur la théorie de l'évolution de Charles Darwin et des cours limités au sujet de la fondation de la République moderne et des compagnons d'armes de Mustafa Kemal Atatürk. Et il y aurait un nouveau cours qui va être introduit, qui va être au sujet de la démocratie et du coup d'État du 15 juillet.
Oui, mais alors là, on voit bien qu'on est dans une bataille idéologique. Mais si on prend la classe moyenne, Delphine Minoui, qui se bat tous les jours pour joindre les deux bouts, la petite classe moyenne, et boucler les fins de mois, est-ce que cette classe moyenne-là est inquiète tout simplement sur une baisse possible du niveau de l'éducation, du niveau scolaire, et quant au devenir de leurs enfants ?
Oui, bien sûr, l'inquiétude existe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que récemment, en tout cas, malgré la chape de plomb qui s'impose de plus en plus sur la société, il y a quand même des mouvements de résistance qui continuent à se battre tant qu'ils le peuvent, à saisir les derniers espaces qui restent en l'occurrence l'Internet, Twitter, il y a eu pas mal de hashtags qui ont été créés sur l'Internet, « touche pas à mon lycée »,« touche pas à mon professeur ». Il y a eu régulièrement, notamment ces derniers mois, des manifestations devant certains lycées qui étaient jusqu'ici plutôt réservés aux bons élèves, aux bons éléments des lycées un peu qui formaient l'élite, que le pouvoir essaye aujourd'hui de briser en retirant certains des professeurs et en les affectant à d'autres établissements. Et là, il y a eu vraiment une mobilisation à la fois des parents, des anciens élèves et des professeurs pour essayer d'éviter que ça se passe, même si malheureusement, on s'en rend compte aujourd'hui, progressivement, ces choix ne peuvent pas être mis en question. Mais en tout cas, il y a une volonté d'exprimer sa critique, d'exprimer sa parole tant que c'est possible.
Et des familles qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, même si elles ne sont pas elles-mêmes ultra politisées. Dans quelques instants, on parle de l'université. Quelle reprise en main pour l'université ? On sait qu'il y a plusieurs centaines d'étudiants qui sont incarcérés. Comment ça se passe aujourd'hui ? Comment on est passé de l'interdiction du voile autrefois à un voile bien sûr autorisé et à la construction de mosquées sur certains campus ? Ki aşk ölene kadar diyordun ya hani yalan dolan eriyordum sensiz buma dönmüş kalbi hiç görmezdin niye neden ne uzatmak yersiz nasıl olsa yoldan döndürmezdin niye Turquie aujourd'hui, la reprise en main de l'école avec un grand E en Turquie jusqu'à l'université. Nous parlions de cette reprise en main politique, religieuse, avec la multiplication d'écoles religieuses, le grand chambardement des enseignants qui sont suspendus, limogés ou déplacés pour notamment atteindre les lycées d'élite qui ont un très bon niveau. Qu'en est-il de l'université ? Alors vous nous le disiez en première partie d'émission et chez Gulcert, le pouvoir de l'AKP du président Erdogan avait beaucoup misé sur l'enseignement supérieur avec une augmentation importante des effectifs des étudiants, d'abord parce qu'il y avait cette pression de l'Union européenne à l'époque où la Turquie était possiblement candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Tout ça, on a l'impression que c'était un autre siècle. Et puis aussi une volonté de se développer économiquement. La Turquie s'est beaucoup développée économiquement. Il fallait donc des jeunes bien formés. Aujourd'hui, comment est-ce que finalement, alors il y a des plusieurs centaines d'étudiants qui ont été arrêtés, Delphine Minoui, vous êtes à Istanbul, qui sont toujours incarcérés, d'autres qui ont été relâchés mais qui ont des études, des cursus d'études tout à fait brisés. C'est voulu, c'est une stratégie ?
Oui, il y a des étudiants en effet qui ont été inquiétés, arrêtés, certains ont été rejetés de leurs universités. Et puis il y a aussi tous ces étudiants qui subissent la purge imposée à leurs professeurs, parce que moins de professeurs signifie qu'il va y avoir des sureffectifs dans certaines classes. Moi, je peux vous citer l'exemple, par exemple, des écoles militaires qui ont été fermées après le coup d'État. Et j'ai une amie qui enseigne à l'université Galatasaray, elle enseigne le français. Et deux mois après la rentrée, elle a vu arriver de nouveaux étudiants qui n'étaient pas sur la sa liste, près une demi-douzaine d'étudiants qui arrivaient des écoles militaires. Et comme il n'y avait pas de place ailleurs, que le système éducatif ne savait pas où les mettre, eh bien, ils les ont affectés à des cours de français dans une autre université qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc, il y a un vrai chambardement interne au sein de l'enseignement aujourd'hui.
Oui, donc des étudiants qui se retrouvent à étudier la littérature française alors qu'ils se destinaient à être militaires, si je comprends bien.
Et alors qu'ils se destinaient à une carrière militaire, tout à fait. Et ce n'est qu'un exemple.
Et ces écoles militaires qui ont été fermées parce que jugées trop kémalistes
Non, gulenistes.
Gulenistes, celle-là. Gulenistes, d'accord. Non, parce que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Mais comment on est passé d'une situation où, du fait de l'histoire de la Turquie, depuis l'avènement de la République d'Atatürk en 1923, on avait des campus qui étaient profondément laïques avec interdiction du port du voile, à, depuis quelques années, le voile est tout à fait autorisé, on construit des mosquées. Comment s'est faite cette évolution depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan en 2002 ?
Je crois que le problème, c'est justement ce que vous avez évoqué, c'est que la laïcité initialement était trop rigide. Ouais. Le fait d'interdire aux femmes qui ont 18 ans, qui sont adultes, qui sont citoyens, qui votent, etc.
Le port du voile dans un pays musulman à 90%.
Dans un pays musulman à 90%. Le port du voile, je ne parle pas de l'enseignement secondaire, à l'université, c'était vraiment l'excès. Et je crois que Tayyip Erdogan et AKP a usé, a abusé de cet excès. Mais quand même, jusqu'en 2010, ils n'ont pas pu faire autoriser, parce qu'il y a eu une vraie résistance dans les universités du camp laïque, avec des abus, malheureusement. Et à partir de 2010, ils ont pu effectivement rendre libre l'accès à l'université aux jeunes femmes qui ont réussi l'entrée à les concours d'université avec leur voile. Mais de l'autre côté, évidemment, à partir du moment où il y avait cette critique de l'ancien régime, de dans l'ancien pratique, maintenant, sur cette critique, on bâtit toute une justification qui va au-delà d'une libéralisation, et ça devient de plus en plus une pression organisée pour que l'espace public soit occupé ou soit bien visible la présence de la religion. Alors, ça, c'est la mosquée dans l'université, qui peut être un droit par ailleurs, mais dans certains endroits, il y a déjà une mosquée à 50 mètres de l'université, mais non, là il faut marquer l'espace public, on demande la création d'une petite endroit, une chambre pour,
symbolique,
pour ouais. marquer le symbole.
On le disait, des étudiants ont été incarcérés, certains relâchés, des professeurs inquiétés d'université, également du côté des recteurs d'université, Delphine Minoui, il y a là aussi une reprise en main politique.
Oui, complètement, parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux tendances aujourd'hui. Il y a en effet cette espèce de réislamisation considérée comme un droit et abusée, en effet, comme disait Ahmad Ensel, par le pouvoir aujourd'hui. Et puis, en parallèle, il y a ce phénomène de volonté de contrôle renforcé du pouvoir, en l'occurrence le pouvoir d'Erdogan, sur toutes les institutions, y compris le milieu universitaire. Alors aujourd'hui, ils ont profité, en effet, de ce système d'état d'urgence où on peut gouverner par décret pour décider que Erdogan pouvait à partir de maintenant choisir directement, nommer directement les recteurs des universités. Oui. Et ça a été un vrai choc vécu par la communauté universitaire.
Auparavant, les recteurs étaient nommés par leur père.
Il y a eu une élection initialement et puis après, il y avait une nomination. Maintenant, l'élection est supprimée.
C'est directement le président qui choisit les recteurs et les doyens dans les universités.
Ouais.
On arrive vraiment au terme de cette émission. J'aimerais vous poser la question à tous les trois en fonction de vos sensibilités, de comment vous sentez le climat en Turquie. Est-ce qu'on peut imaginer les lycéens étaient descendus dans la rue avant le putsch manqué en juin dernier pour protester d'ailleurs contre certaines reprises en main dans les lycées d'élite. Je repense aussi au printemps 2013, le printemps turc, avec beaucoup de jeunes dans la rue, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer un réveil de la jeunesse aujourd'hui pour la liberté en Turquie ou pas ? Et chez Gülsert ?
Je pense que ce pas maintenant. En tout cas, je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans les mois à venir, mais dans la Turquie d'aujourd'hui, où il y a tellement de pression, d'oppression, je ne le vois pas. Mais ce que je vois avec les jeunes que vous dites qu'il va être positif, c'est que je les vois devant le palais de justice. Je le vois dans leurs écoles avant de recevoir leur diplôme, en train de soutenir leurs professeurs. Et ça, c'est de l'espoir.
Delphine Minoui, en quelques secondes.
Oui, je partage les idées d'Aïchagül, c'est-à-dire que un soulèvement, je pense qu'on en est bien, bien loin. Mais en tout cas, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que malgré la répression, malgré les difficultés, il y a quand même une force de survie incroyable au sein de la société civile turque. Il y a un bouillonnement qui existe. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il y a énormément de journaux, de télévision, de radio qui ont dû fermer. Eh bien, les journalistes ne baissent pas pour autant les bras. Il y a seulement une minorité qui choisit l'exil. Les autres essayent de trouver d'autres formes d'expression, que ce soit sur l'Internet, que ce soit des débats dans les cafés. En tout cas, cette parole, cette liberté de parole continue à être revendiquée.
Ah, Matin Sel, vous partagez cette partie d'optimisme.
À très court terme, nous sommes dans une chape de plomb et la peur domine. Mais par contre, je pense que dans les quelques mois après, nous allons avoir une nouvelle structure, une nouvelle dynamique et qui sera une dynamique de démocratisation. Je pense que ça fait partie de la démocratie, du processus
Merci
de démocratisation.
Merci à tous les trois. À Matin Sel, économiste, politologue turc, vous avez publié La Nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, aux éditions La Découverte. Merci à vous, Eşegül Sert, journaliste turc, vous écrivez pour le New York Times et Newsweek. Et merci à vous, Delphine Minoui, en direct d'Istanbul, vous êtes journaliste pour Le Figaro. Merci à tous les trois, à demain les voisins.